Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue en direct. Nous sommes toujours au Grand Café de l'Union à Saint-Viron avec l'invité fil rouge de ce Vivante Église un peu spécial, le père Bertrand de Saint-Onac, curé de Saint-Viron et du Couseran. Il va être notre guide tout au long de cette émission pour nous faire découvrir la vie paroissiale du Couseran, ce vaste, même très vaste diocèse doyenné, il faut dire doyenné, dont il a la responsabilité. Il ne l'assume pas seul, bien sûr. Nous aurons l'occasion de faire la connaissance de quelques-unes des personnalités qu'il assiste dans sa charge. Eh bien, nous allons faire d'abord connaissance avec vous, mon père. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes curé de Saint-Giron depuis août 2015, mais on peut dire toute votre carrière et même votre vie, avant même votre engagement dans l'Église, est intimement liée à ce territoire du Couseran, puisque vous êtes originaire de Saint-Onac du Cérou. Ça ne s'invente pas, c'est le berceau de votre famille.
Voilà, bonjour, oui, tout à fait. Enfin, je suis donc ariégeois. D'un canton qui s'appelle le Céronais, qui se trouve entre les différentes, au centre de l'Ariège, donc j'ai beaucoup de chance.
Oui, alors justement, petite précision historique, est-ce que c'est rattaché vraiment au Couseran ou pas?
Alors aujourd'hui c'est dans la communauté de communes du Couseran, et c'est des zones frontalières, donc là je sais qu'on était un peu tout, donc c'est bien. Mais dans ma vie j'étais plutôt tourné de l'autre côté, vers le côté de Foix et de Pamiers, et puis j'ai eu la chance de commencer mon ministère de prêtre ici à Saint-Giron, il y a 28 ans, avec le père Jean Fouroux, dont on parlera tout à l'heure.
Qui est à vos côtés, voilà, bien sûr, on va
et puis après, je suis parti de l'autre côté, Pamiers, Saverdun, et puis j'ai été rappelé pour venir dans ce beau Couseran dans lequel je suis très heureux.
Voilà, vous êtes viscéralement attaché à cette terre, vous n'imaginez pas exercer ailleurs, ou ça aurait pu être le cas tout de même?
Alors d'abord, bon, les prêtres diocésains, nous sommes rattachés à un territoire qui est le diocèse. En général, nous faisons toute notre vie dans ce diocèse, sauf quand on est envoyé en mission à l'extérieur, ça peut arriver, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc oui, moi je suis heureux d'être dans ce diocèse et de servir là où on m'envoie. Je n'ai pas choisi de venir ici, j'ai été appelé par l'évêque. Voilà, et je suis heureux, j'espère y rester longtemps. Là, ça fait 7 ans que je suis là, mais j'espère, si l'évêque m'entend ce matin à la radio, qu'il m'y laissera longtemps.
Vous y êtes bien installé, en tout cas, et on sent être heureux d'ici. Alors, doyenné, Couseran, parce que vous m'avez bien précisé, il faut parler de doyenné, c'est un ensemble paroissial. Jusqu'où s'étend-il? Très vaste territoire, combien de clochers?
Alors, voilà, c'est un grand territoire. C'était un ancien diocèse qui a fonctionnait en gros de l'évangélisation, 4e, 5e siècle jusqu'à la Révolution, avant d'être intégré dans le diocèse de Pamiers. C'est un grand territoire avec 9 secteurs paroissiaux, 129 clochers. Aujourd'hui, on dit ça, là, ça fait impressionnant. Alors, on ne va pas tous les jours dans toutes les églises, hein, heureusement. Mais, un centre, une agglomération centrale autour de Saint-Giron, et puis des vallées qui descendent. Voilà un peu qui arrive comme en étoile sur Saint-Giron. Voilà.
Donc, oui, de même que la géographie forme un peu les hommes, elle forme aussi un peu, semble-t-il, les églises. Chaque secteur est indépendant tout de même, voilà, mais il est relié aux autres.
Voilà, chaque secteur est autonome, avec des activités propres à la vie paroissiale, qui est organisée dans chaque secteur chaque week-end. Mais on a le souci, évidemment, de se connaître, de travailler ensemble. C'est une seule équipe de prêtres qui sert l'ensemble du doyenné. Nous sommes actuellement prêtres et un diacre, on a beaucoup de chance. Voilà, avec une belle équipe, on forme une belle équipe unie. Donc voilà, des secteurs autonomes dans lesquels... alors nous, on habite les prêtres à Saint-Giron, principalement. Et donc, ça demande que les chrétiens sur place puissent prendre des responsabilités, s'organiser pour que la vie chrétienne soit animée localement.
Le centre paroissial, le lieu de vie des prêtres et le lieu où les paroissiens se rencontrent, hein, autour du secrétariat paroissial. 5 grands services aussi. Ça, il faut qu'on en parle parce que c'est très important. Vous êtes organisé en 9 secteurs paroissiaux, mais il y a aussi 5 grands services sur lesquels vous vous appuyez.
Voilà, on a donc organisé Cinq grands services, le service des malades et de la charité, le service de la liturgie, le service de la communication, le service des affaires économiques, et qu'est-ce que j'ai oublié ? Le service de la mission, oui, bien sûr. J'ai oublié la mission, service de la mission, voilà. Et donc, ces services sont animés par des paroissiens, des laïcs, à la fois au niveau du doyenné, pour la coordination, mais aussi avec des délégués dans chaque secteur.
Animé par des fidèles laïcs pour la plupart. Il y a l'existence aussi d'un parcours alpha. Ça, je pense que vous tenez à en parler. Ça va parler à ceux qui connaissent bien la vie de l'Église.
Voilà, donc notre souci, c'est à la fois de vivre une vie chrétienne habituelle le mieux possible, et puis d'avoir une dimension missionnaire très forte qui s'articule en gros en trois actions principales. D'abord, un relais d'adoration eucharistique qui porte par la prière toutes nos actions et notre engagement, et c'est important. Ensuite, nous avons des fraternités missionnaires dans chaque secteur, des petits groupes de chrétiens qui se retrouvent régulièrement pour prier, partager et porter la mission ensemble. Et puis, donc, une démarche originale qui s'appelle le parcours Alpha, que nous avons déjà, moi que j'avais vécu dans mes précédentes paroisses, que nous avons organisé au début, à mon arrivée sur le coup, et que nous revenons à les épisodes de la Covid, que nous reprenons à la rentrée prochaine, en septembre, un parcours alpha, voilà, pour redynamiser, puis inviter ceux qui veulent découvrir la foi chrétienne d'une manière très originale et très vivante.
Les messes, elles sont célébrées le samedi et le dimanche dans chaque secteur paroissial. C'est comme ça que vous fonctionnez?
Ça, alors on a quatre horaires, le samedi soir et puis dimanche, 9h, 11h et 18h, ce qui permet de couvrir l'ensemble du territoire. Donc voilà.
Et il y a une petite équipe qui anime chaque secteur et notamment organise ces messes.
Voilà, on essaye une équipe d'animation, une AP dans chaque secteur qui anime non seulement la liturgie mais aussi les services que je vous ai dit. Par exemple, le service des malades, hein, ou le souci que les personnes qui ne peuvent pas venir à la messe puissent recevoir des visites, la communion, ou alors du catéchisme dans certains secteurs, quand c'est possible, voilà, ou alors la communication, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, dans chaque secteur, on essaie que les services soient vivants, mais sans se mettre en place. C'est pas encore vrai dans tous les secteurs, mais on avance. Et la semaine prochaine, on part à Lourdes avec le conseil paroissial pour deux jours de retraite, récollection, le jour de retour de l'action. On va travailler, faire le point sur où on vit, puis travailler à l'action de l'année prochaine.
Voilà. On va parler de toute votre équipe tout à l'heure, que ce soit les prêtres, les laïcs, qui vous assistent. Une question, à quoi ressemble ce type de médecin de son territoire?
C'est une question. Il n'y a pas de temps. Au bureau pour diverses choses d'accueil et puis de travail. Ensuite, ça dépend des circonstances. Bon, il y a évidemment, comme dans tous les secteurs de France, beaucoup de sépultures que nous assurons avec des laïcs, mais que nous assurons encore nous, les prêtres et les diacres. Voilà, donc c'est un moment important de notre vie parce que ça nous permet de rencontrer des familles et de les accompagner dans cette épreuve difficile et puis de leur apporter une espérance. Ensuite, moi, j'ai un gros ministère aussi auprès des maisons de retraite. Je ne suis pas le seul, hein, mais je suis comme voilà, beaucoup de messes dans les maisons de retraite. On a 11 maisons de retraite sur le Couserans, 11 EHPAD, voilà, dans lesquelles la messe s'est assurée au minimum par mois et deux fois par mois.
Ça, je sais que ça va.
Oui, c'est des moments d'accompagnement. Et puis, voilà, après, ça dépend de ce qui se présente, des temps de prière, des temps de rencontre, des temps de préparation, des temps de balade aussi. Hein, le Couserans, c'est un beau lieu.
Ce serait dommage de ne pas en profiter.
L'air est bon, voilà. Donc,
voilà. Surtout à cette saison.
Oui. Non, c'est vrai, on est bien. On est gâtés.
Alors, puisque vous parlez de beau pays, on va faire une première pause musicale dans cette émission avec une pièce composée par un autre presque enfant du pays. Pourquoi dit presque enfant du pays? C'est un arrière, mais il n'était pas du Couderan, lui. Gabriel Fauré est né à Pamiers. Bon, ça fait une soixantaine de kilomètres, mais on va bien expliquer. Le Couderan, c'est pas tout à fait le reste de l'Ariège. Je vais vexer personne. On va écouter une pièce de Gabriel Fauré magnifique, l'ouverture de Masques et Bergamasques. À l'antenne après cette belle pièce musicale de l'ariégeois Gabriel Fauré, interprétée, je le précise, par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Nous allons reprendre maintenant nos échanges avec vous, mon père, et avec vos invités, les personnes que vous avez souhaité inviter à ce Vivante Église. Et le premier est une figure de la vie religieuse et paroissiale à Saint-Giron, puisque c'est un de vos prédécesseurs, le père Jean Fauroux, qui lui est un vrai Saint-Gironnais, je crois. Bonjour, mon père.
Oui, bonjour. Je suis Saint-Gironnais, un Couderanais, exactement.
Oui, vous êtes de Montjoie.
Voilà, je suis né à Montjoie et j'habite Montjoie.
Et vous y êtes toujours?
Et j'y suis toujours, oui.
Alors, bon, j'ai dit que vous êtes un des prédécesseurs du père Bertrand de Saint-Denac, mais alors, vous avez été ordonné prêtre, vous m'avez dit, en 1957.
1957, oui, ça fait 65 ans cette année.
Et vous avez exercé tout votre ministère dans le coin, dans le Couderanais?
J'ai commencé à Mirepoix, en 3 ans. Ensuite, j'ai été nommé aumônier de lycée, ici, à Saint-Giron. J'ai été aumônier pendant 35 ans du lycée. Puis j'ai été intégré au service paroissial et je suis devenu curé quand le curé de l'époque est décédé. Voilà, c'est pour ça que j'avais accueilli aussi à ce moment-là Bertrand comme premier séminariste, tout est séminariste d'abord et puis après prêtre. Voilà.
Et vous êtes encore aumônier de l'hôpital psychiatrique?
Je suis encore aumônier d'hôpital général et psychiatrique. Et puis encore. J'ai d'autres activités quand même.
Mais je crois que vous êtes un photographe assez réputé. Vous photographiez les paysages du Couderanais ou...
Bon, c'est-à-dire que j'ai fait partie d'un club photo pendant 55 ans. Et ce club avait pas mal de renommée, même internationale, parce que nous faisions des concours internationaux dans tous les pays du monde à peu près. Donc ce qui fait qu'il y a un passé assez structuré là-dessus.
Eh bien, vous parlez du passé, et ça, je voulais justement l'évoquer avec vous. Quand on a été curé dans les années 50, dans le Couserans, et qu'on voit l'église et la pratique religieuse dans cette région 60 ans après, comment ça a évolué? On m'a dit, et je crois que c'est vrai, que c'était une région très catholique, très pratiquante, très pieuse. Quand vous êtes devenu prêtre, comment ça a évolué tout ça?
Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, le Couserans était encore extrêmement pratiquant. Voilà. Ici, à Saint-Girons, il y avait 5 prêtres sur la ville. Il y avait le curé, 2 vicaires, et un curé à Saint-Vallier, un curé à Lédard.
Une trentaine dans tout le Couserans.
Voilà, dans le Couserans, une trentaine, oui. Mais il y avait plusieurs messes le dimanche matin, une messe des hommes à 7 heures. Et puis ensuite, il y avait la grande messe, alors, où il y avait tous les enfants, il y avait des rangées d'enfants incroyables, et puis l'église absolument pleine. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, oui. Et depuis, évidemment, ça a beaucoup évolué.
Alors le point de bascule, c'est quand? C'est 68?
Oui, je pense que la date qui crée la rupture, c'est quand même 68, avec tous les bouleversements qu'il y a eu. D'abord au niveau de mon aumônerie de lycée, mais ensuite aussi au niveau des paroisses, quoi, vous voyez.
Oui, parce que les prêtres de village, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils ont commencé, entre guillemets, à disparaître. Dans les années 70, 80.
Oui, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu effectivement une crise qui a duré quand même pendant pas mal de temps.
Ce qu'on appelait la crise des vocations, qui dure toujours,
voilà.
Bien sûr.
Mais... Voilà. Et comme les prêtres aussi, ils n'étaient pas tout jeunes encore. Il y en a beaucoup qui, petit à petit, ont disparu, et on a été obligé de les remplacer sans qu'il y ait de la relève. Vous voyez ?
Oui, oui.
Donc, ce qui fait que petit à petit, moi, je me suis trouvé obligé d'assurer des villages, le service dans des villages environnants, jusqu'à ce qu'un jour il y en ait trop, et que j'ai demandé à mon évêque de me retirer de Saint-Girons pour que je puisse garder les villages des Girons, jusqu'à en avoir 42.
Ouais,
voilà,
22.
Tout seul, à ce moment-là, oui.
Tous les petits villages alentours.
Voilà,
Église, Éric Dupri.
Voilà, nous sommes de retour au Grand Café de l'Union à Saint-Girons après cette petite coupure. Alors, c'est à disjoncté, ou alors c'est Jonathan Botello qui ne pédale pas assez vite, je ne sais pas. En tout cas, on reprend avec vous, Père Jean Faureau. On parlait de l'histoire de la vie religieuse dans le Couserans. On parlait de la baisse de la pratique religieuse. Cela dit, il y a quelque chose qui me semble important aussi de préciser, et je crois vraiment que ça existe. Si la pratique religieuse a baissé, les valeurs chrétiennes, elles me semblent encore bien implantées dans les cœurs et dans les comportements des Couseranais.
Oui, je crois qu'on peut faire la différence. Enfin, autrefois, quand il y avait beaucoup de pratiquants, c'était plutôt, enfin, pour beaucoup, c'était une pratique plutôt formelle.
Qui rendait des traditions et des habitudes sociales.
Oui, surtout, et par exemple, quand les gens venaient se confesser, ça, c'est pas un secret, ils n'avaient que 2 péchés à accuser. Avoir manqué la messe le dimanche et avoir mangé de la viande le vendredi. Il n'y en avait aucun autre après.
Donc, c'était déjà... presque des saints, dites-donc.
Non, voilà. Donc, ça, je vous assure que c'est vrai.
Oui, je vous crois.
Mais... Donc, la pratique était peut-être un peu formelle en ce sens. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai, je crois qu'on fait la différence. Ceux qui viennent, ceux qui sont des pratiquants, je crois que ce sont vraiment des convaincus, des gens qui réfléchissent, qui aiment bien approfondir. Donc, je crois que là, il y a une nuance. Même si on est moins nombreux, c'est vrai, peut-être qu'à ce point de vue, au point de vue de la qualité, si on peut dire entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais aussi quelle
était la sincérité de la foi, de
quelle était la vérité de ces gens-là dont je parle. Moi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient quand même une foi profonde, même s'ils ne savaient pas l'exprimer, ou si ça s'exprimait d'une manière que nous appelons traditionnelle.
Oui, oui.
Vous voyez.
Très bien. Alors, merci, mon père, pour ce témoignage. On va maintenant, maintenant encore la camion maintenant qui passe devant nous, c'est toujours les aléas du direct. Le père de Saint-Anna qui a souhaité inviter aussi un père burundais qui officie dans le couvent depuis déjà quelques années, le père Jean. Alors je voudrais que vous nous expliquiez ce lien entre le Burundi et l'Ariège et plus particulièrement le couvent. Comment ça a-t-il fait, mon père, vous qui êtes ici depuis 6 ans maintenant, hein, c'est ça?
Oui. Alors, je suis ici dans la paroisse de Saint-Géron depuis bientôt 6 ans. Le lien entre le Burundi et la France ou l'Ariège, c'est lié à la coopération missionnaire. Donc, le diocèse de Pamiers avec les diocèses du Burundi, c'est pas uniquement mon diocèse, puisque il y a aussi le diocèse de Gitega, il y a mon diocèse. Donc, il y a un partenariat missionnaire entre les diocèses du Burundi, certains diocèses du Burundi et le diocèse de Pamiers. Voilà, le partenariat et le fait que je sois ici, c'est dans ce cadre.
Donc
voilà.
Depuis 6 ans, c'est vous qui avez souhaité venir en France et plus particulièrement dans cette région, ou ça s'est fait un petit peu par hasard?
C'est pas moi qui avais souhaité venir ici, qui ai souhaité venir ici. C'est dans ce cadre de la coopération. Le diocèse de Pamiers, quand il voit qu'il a un besoin de prêtre, il fait appel au diocèse de Burundi, soit Gitega, soit Burundi.
Alors, Gitega, c'est la capitale, je précise.
Gitega, c'est la capitale, oui. Et puis le diocèse de Gitega ou de Burundi voit dans son personnel s'il peut envoyer un prêtre dans le diocèse de Pamiers. Alors, quand l'évêque de Pamiers sollicite cette aide, le diocèse, nos diocèses d'origine,
donne
suite à cette demande.
Et propose quelqu'un.
Et celui qui est visé, il donne son avis. S'il veut venir.
Donc, vous avez le choix tout de même.
Voilà, ou non. Ouais. C'est libre, c'est pas une obligation, mais c'est libre. Mais puisque nous avons fait quand même vœu d'obéissance à l'évêque, c'est rare que quelqu'un refuse une mission.
Et vous, depuis 6 ans, vous êtes ici. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans le Couseran? Quelle est la vie que vous avez avec les paroissiens? Comment vous avez été accueillis aussi? On parlait de l'accueil des valeurs chrétiennes dans le Couseran. Est-ce qu'elles sont très présentes?
Moi, je suis heureux d'être dans le Couseran. D'abord, parce que j'ai été bien accueilli. Je ne suis pas tombé comme dans un désert, mais je suis tombé au milieu des fidèles qui avaient réellement besoin d'un prêtre.
Ouais, qui attendaient un prêtre.
Voilà, qui attendaient un prêtre et qui avaient besoin de cette présence, je dirais, de quelqu'un d'ailleurs pour pouvoir vivre cette expérience avec quelqu'un d'autre. Alors, ils m'ont bien accueilli. Tout à l'heure, vous avez parlé, j'ai écouté la radio avant de venir. Vous avez parlé de l'apprivoisement.
Oui.
Donc, qui avait besoin de quelqu'un.
De s'apprivoiser réciproquement.
Voilà, de s'apprivoiser réciproquement.
Ouais.
Donc, quand je suis arrivé ici, dans le Couseran, j'ai essayé de vivre avec les paroissiens, les Couseranais. Ils m'ont apprivoisé, je les ai apprivoisés, j'ai appris des manières de vivre d'ici. Ils ont appris ma culture.
Ils ont été curieux de la vie au Burundi.
On le voit par des questions qu'ils me posent. Comment vivent les Burundais, le climat du Burundi, tout ça, toutes ces questions montrent qu'ils sont curieux de voir le Burundi. Et souvent, je les invite de venir un jour, visiter le Burundi, comme ça, il y aura les échanges, ils se renforceront,
Oui, alors le Burundi, on va le situer, c'est l'Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs, c'est à l'Est de la République démocratique du Congo, au Sud du Rwanda, et au Sud et à l'Est, il y a la Tanzanie. Il n'y a pas d'accès à la mer, mais je crois que c'est un pays aussi assez montagneux. Il y a des montagnes aussi, au Burundi?
Oui, donc le Burundi est situé dans l'Afrique de l'Est. Comme vous le dites, au nord du Burundi, il y a le Rwanda. À l'est, et une partie du sud, il y a la Tanzanie. à l'ouest et une partie du sud liée à la RDC, la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'accès à la mer, mais nous avons quand même un grand lac.
Le Tanganyika.
Un grand lac, le lac Tanganyika, qui nous aide dans pas mal de choses. L'accès à la mer, nous n'en avons pas. Et c'est ce qui fait quand même que la vie soit chère, parce qu'il y a quand nous importons des choses, ça doit venir par avion, ou bien par voie aérienne, ou par camion, de quoi. Et ça fait que les choses soient chères.
Est-ce que le rapport à la foi est très différent au Burundi et dans le Couvron ?
Le rapport à la foi, je dirais que c'est très différent. Et c'est quand je suis arrivé ici dans le Couvron, les premières messes que j'ai célébrées, alors je me préparais bien à préparer mon homélie, je me préparais à des assemblées comme chez nous au Burundi. Et les premières messes m'ont impressionné. Je me souviens de la messe du Christ et Roi que j'ai célébrée. C'était à Los, je pense, à Los. Je suis allé à Los célébrer la messe du Christ et Roi. Et chez nous, le Christ et Roi, c'est une fête, vraiment une grande fête, et pour les jeunes surtout. Les jeunes, ils se rassemblent, ils sont dans la joie, ils célèbrent. Et quand je suis arrivé à Los, je me suis trouvé devant une assemblée de 6 personnes. Alors je me demandais où suis-je tombé, qu'est-ce que vraiment c'est la fête du Christ et Roi que je rencontre ici dans le Couvron, je pensais que je me demandais où je suis tombé, voilà. Donc la pratique au Burundi et ici, c'est très différent, mais je vois quand même qu'ici, celui qui a sa foi, il y croit, quand il y croit, il y croit.
Il croit fermement.
Il n'y a pas de demi-mesure. Mais celui qui ne croit pas, finalement, il ne croit pas. Voilà, c'est ça. Donc la pratique est très différente au Burundi et ici, dans le Couvron.
Ça vous a choqué la différence du niveau de pratique ici par rapport au Burundi et par rapport à beaucoup de pays d'Afrique, il est vrai. Hein.
La pratique, je vois qu'ici, la pratique est très faible. Mmh. Très faible, mais la foi est vécue profondément. Mmh. Tandis que chez nous, la pratique, il y a une grande pratique, beaucoup d'assemblées, mais des fois, ce n'est pas enraciné dans la vie. Voilà.
Merci, mon père, pour votre témoignage. Alors, vous allez bientôt migrer, si je puis dire, puisque vous allez prendre en charge, vous allez devenir curé de Tarascon, c'est ça ?
Oui, depuis quelques mois, l'évêque m'a approché, m'a demandé si je peux bouger et aller aider un autre secteur du diocèse. Alors j'ai accepté, à partir du mois de septembre, je serai curé de la paroisse de Tarascon sur Ariège.
À Tarascon, où on nous reçoit, Radio Présence. Voilà, bien. On aura peut-être l'occasion parfois de vous entendre célébrer la messe à Tarascon. Merci beaucoup,
voilà,
mon
vous
père.
Êtes les bienvenus.
Et puis bien sûr, bonne chance dans votre nouvelle charge à Tarascon. Alors maintenant, on va discuter avec des dames, parce que vous avez remarqué, il n'y avait que des hommes jusqu'à maintenant. Et il faut dire une première ministre. Moi je dis une première ministre, je suis désolé. Les femmes sont très importante aussi dans l'Église, très impliquée. Alors on va commencer avec Eliane Vieille, qui travaille à la communication du doyenné.
Oui,
il y a un journal du doyenné.
Oui.
Alors expliquez-nous un peu comment il fonctionne. C'est un mensuel.
Oui, c'est un mensuel.
Qui est assez conséquent.
Oui.
Une vingtaine de pages.
Une vingtaine de pages, oui.
Alors le contenu, qu'est-ce qu'on y trouve ?
On y trouve l'avis de chaque secteur du doyenné. Ensuite, on y trouve les carnets des sépultures. On y trouve l'agenda des messes dans les églises et les EHPAD. Des articles de réflexion et de formation. Ensuite, ce journal est imprimé quand même en 600 exemplaires. Hein.
Et alors, il est distribué comment ? Ce sont les bénévoles qui le distribuent ?
Oui, ce sont les bénévoles qui...
Et il y a des points relais où on peut trouver les églises essentiellement ?
Chaque secteur distribue EFATA.
Fata, il s'appelle.
EFATA,
pardon.
Ça veut dire « ouvre-toi ».
Merci, il fallait traduire, parce que moi, je ne savais pas. Et il y a un éditorial du père de Saint-Onac, obligatoire.
Oui, et puis il y a aussi du père Jean Forousse qui développe des articles sur la marmotte et Elisa.
Ah oui, donc il y a des articles sur la faune, la faune du Couvron qui est très riche aussi, et peut-être des photos du père Jean Forousse, parce qu'il y a des photos, il n'y a pas que des articles.
Il y a des photos aussi. Hein. Ouais. L'éditorial, il y a toujours une photo de Jean Forousse.
Alors moi qui ai aussi quelques articles activité dans la presse écrite, c'est pas simple de monter un mensuel de 20 pages chaque mois. Oui. Surtout quand, comme vous, on est en bout de chaîne.
Voilà, il faut solliciter.
Vous devez relancer souvent.
Oui, bien sûr. Oui. Mais enfin, maintenant, ils commencent à envoyer les articles sans que je demande.
Forcément. Ça, c'est une chance, pour vous dire. Ouais. Hein, ouais. Vous êtes combien à travailler sur ce journal?
Je ne sais pas.
Vous êtes à cheville ouvrière, bien sûr, mais.
Et puis il y a une quinzaine, et puis il y a Alain Manozo qui s'occupe de la mise en page, et le père Bertrand qui voit à la fin si on garde, si on garde pas l'article.
Expliquez-nous, mon père, là, le regard que vous portez sur ce journal et la façon dont vous l'utilisez, parce que je pense que vous devez beaucoup vous appuyer sur cette publication.
Alors oui, beaucoup. Donc le journal existait quand je suis arrivé déjà, mais on l'a développé et on le fait nous intégralement. Voilà, ce qui est, vous l'avez dit, un grand défi. Je précise aussi qu'économiquement, ça marche bien, c'est une affaire rentable, parce que quelquefois, les journaux paroissiaux, ça coûte des sous aux paroisses. Et nous, ça nous en rapporte. Voilà, on a des abonnés, on a des annonceurs aussi, qui soutiennent le journal.
Oui, c'est vraiment quelque chose de très professionnel, je vois.
Voilà, oui, on est très fiers. Et certains sont envoyés par la poste, certains sont envoyés loin, on en envoie aussi par Internet en PDF. Enfin, voilà, il y a tout un travail. Et donc, le défi, c'est d'arriver de le sortir tous les mois. J'en profite pour remercier Alain Manozo, qui est notre maquettiste, là, qui fait un travail remarquable. Voilà. Donc c'est une belle aventure.
La communication dans le doyenné, vous appuyez sur ce journal, mais aussi, est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, newsletters, des choses comme
ça?
Non,
pour l'instant, non.
Pas trop?
Non, on est classique. Non, pour l'instant, mais on a un site internet en cours de
création. Ah, voilà, il y a des choses qui sont en cours de développement tout de même.
Et après, des affiches, les annonces, les feuilles de messe aussi. Dans les feuilles de messe, on a des annonces.
Alors, on va parler maintenant avec Madame Yolande Dupont. Voilà, j'ai bien noté, vous voyez. Oui. Alors vous êtes la référente de l'hospitalité dans le secteur de Couseron, on parlait des secteurs paroissiaux, c'est-à-dire que vous faites le lien entre les hospitaliers
et
les malades.
Oui.
Et vous organisez aussi un petit peu tout ce qui est pèlerinage à Lourdes.
Voilà, alors être hospitalier, c'est accompagner des malades à Lourdes pendant 4 jours pour les servir. Les mettre à la première place pour qu'ils trouvent du réconfort. Voilà, mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi être présent toute l'année pour leur rendre visite et les aider. Voilà.
Alors ça, c'est vous qui le faites? Vous avez une équipe avec vous, je suppose.
On est plusieurs hospitaliers. On va en visite dans les EHPAD ou chez des particuliers. Et on garde le lien comme ça toute l'année. Puis on fait des inscriptions. C'est le moment, là. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue lundi à 10h à la paroisse pour parler des inscriptions des hospitaliers et des malades.
Père de Saint-Honoré.
Je complète en disant que l'hospitalité s'appuie donc sur un service des malades assez bien organisé, avec des relais dans chaque secteur. La difficulté, c'est d'arriver à... Pour visiter les personnes, c'est de les connaître.
Oui.
Donc là aussi, on a mis en place des veilleurs, des gens qui nous disent, ben voilà, il y a telle personne, autrefois elle venait à la messe, ou alors elle serait désireuse de recevoir une visite, de recevoir la communion. Et puis après, les laïcs qui accompagnent, qui visitent les malades, viennent nous dire au prêtre, je l'ai fait lundi, là, voilà, il y a une personne qui souhaiterait vous rencontrer. Donc du coup, on va célébrer avec elle le sacrement des malades. Voilà, c'est des très, très beaux moments, et un service très, très riche, très important, pas facile à vivre et à structuré, et dans lequel s'impliquent beaucoup de personnes. Et donc, comme disait Yolande, l'été, on va à Lourdes pour ce beau pèlerinage.
Alors oui, j'allais vous poser la question, il y a beaucoup de demandes pour les pèlerinages à Lourdes dans le Couseron.
Les hospitaliers, on est combien, je ne sais pas, une vingtaine.
Non, mais...
Moi,
je suis plus ambitieux. Moi, je voudrais
que cette année,
on amène une quarantaine de personnes à Lourdes, ce serait bien, et puis qu'on soit au moins 80 hospitaliers pour les accompagner. Donc, tout le monde va se mobiliser. Donc, on va être nombreux.
Bon, merci beaucoup,
c'est
madame.
C'est un lien avec le diocèse aussi. Hein. On n'y va pas tout seul, on y va avec
l'hospitalité diocésaine.
Oui, bien sûr. C'est toute l'Ariège.
Toute l'équipe vous soutient. Alors, madame Catherine Decoux, maintenant. Vous êtes bénévole au Conseil épiscopal. Alors, en quoi consiste votre rôle?
Alors,
les missions que vous assurez?
Depuis 6 ans, le nouvel évêque a appelé des femmes au Conseil épiscopal. Actuellement, nous sommes 4. une religieuse, mais trois laïcs, mariés, avec enfants, petits-enfants. Bon. Et ce conseil, nous avons absolument le rôle des autres, c'est-à-dire une étude, une écoute, des décisions. On est associé complètement à la gouvernance. Hein, voilà. Donc,
vous êtes combien, vous avez dit? Vous êtes quatre.
On est quatre ouais. femmes sur une douzaine de l'ensemble du conseil.
Alors pourquoi l'évêque a souhaité ce qu'il y ait des femmes comme ça qui s'impliquent?
Bah, c'est quand même
très moderne, cet évêque.
C'est
très
quand même une tendance et une demande du pape François.
Ouais, hein, donc, ouais, il a relayé en fait, la volonté du pape François et le souhait que de plus en plus de femmes soient impliquées dans la vie de l'Église.
Alors je dirais que l'intérêt d'être au conseil épiscopal, c'est un intérêt évidemment pour le diocèse, mais c'est aussi un intérêt d'avoir des liens avec plus grands que nos paroisses. Et ces liens sont au même aussi plus grands que le diocèse, parce que l'évêque a le souci de nous mettre en lien avec tout ce qui se passe au niveau de la conférence des évêques de France. Donc on est quand même en lien avec
il y a un rôle de courroie de transmission.
Voilà, ce qui se passe quand même au niveau des décisions. On ne participe pas directement aux décisions, mais on est une courroie de transmission, au moins de l'information. Voilà.
Merci pour votre témoignage, Madame Decoux. On va terminer avec Muriel Denain. Alors vous êtes responsable coordinatrice, je préfère ce terme d'ailleurs, de quelque chose dont a parlé Bertrand de Saint-Onac tout à l'heure, les fraternités missionnaires. Expliquez-nous comment ça fonctionne et quel rôle vous jouez.
Alors, vous avez donc bien compris que cet ensemble paroissial avec ses 9 secteurs, qui reste quand même autonome, on a besoin de les faire vivre. Alors, au sein de chaque secteur, il y a des petits groupes de chrétiens qui se réunissent. Alors, soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours. À la tête de ces petits groupes, il y a un coordinateur, un leader, enfin quelque chose, voilà, comme ça. Et ce sont des réunions qui nous permettent d'abord d'apprendre à se connaître, d'inviter largement, de prier ensemble. Et puis on réfléchit aussi sur un enseignement que notre curé, l'abbé Saint-Onac, nous fait. Ça nous permet d'approfondir la foi et aussi d'accompagner les uns et les autres, parce que dans ces fraternités, il arrive parfois qu'on puisse, enfin c'est souhaitable d'ailleurs, qu'on puisse vraiment se dire des choses, voilà, les joies mais aussi les peines. Et donc il y a cet accompagnement des personnes qui sont en souffrance et qui viennent là pour un peu de réconfort. Alors ces petits groupes sont normalement au maximum de 7 à 8 personnes. Et puis dès l'instant qu'on arrive à 8 ou 9 personnes, on se divise à nouveau. On est parti sur le procédé des cellules d'évangélisation. Voilà, de manière à ce qu'il y ait toujours entre nous quelque chose de très fort, de très fraternel. Et dans chaque secteur, je pense que maintenant, à part un ou deux secteurs où ça manque, mais il y a ces petites fraternités. On doit être maintenant à une dizaine de fraternités dans tous les secteurs. Castillon, il y en a à RC, il y en a à Saint-Giron, évidemment, Moulis, Saint-Lizier-du-Stoux, c'est tout loin alors. Voilà, et ça permet de faire vivre ces petites communautés, et on prie spécialement pour les uns les autres. Voilà, on a la prière des frères ensemble, et puis on prie pour les personnes qui sont loin de l'Église et qui voilà, qu'on voudrait inviter
à vous rejoindre,
à nous rejoindre pour prier ensemble. Ouais, tout à fait.
Mon père, je précise un mot sur ces fraternités missionnaires.
Ouais, je précise ce sujet que l'objectif aussi, c'est elles sont missionnaires. Voilà, ce serait dans ces petits groupes de pouvoir accueillir des personnes qui sont en recherche. Et donc, ils pourraient trouver là une petite expérience de communauté. Et donc, et à partir de ces petites communautés, faire l'expérience de la grande communauté qu'est l'Église. Voilà, donc c'est vraiment une démarche missionnaire. C'est pas facile, hein, surtout dans les petits villages, parce qu'on n'est pas très nombreux. Se renouveler, c'est compliqué. Dans les petits villages aussi, c'est pas toujours facile de se réunir, contrairement à ce qu'on croit, parce que d'abord, chez l'un ou chez l'autre, ça peut être compliqué, il y a des histoires, enfin bon. Voilà, c'est le monde rural avec sa richesse et ses limites, mais en tout cas, c'est beaucoup de joie et puis de belles perspectives à long terme, donc on est content de
cette expérience.
Et puis
l'écoute.
Oui, l'écoute, voilà, l'écoute, le partage.
Oui. C'est à quel point c'est important.
Et puis aussi de témoigner que là, il y a un petit groupe de... L'église, c'est pas juste un bâtiment, c'est un groupe de chrétiens qui sont ce qu'ils sont et qui essaient de rayonner et de se soutenir dans ce rayonnement, voilà, rayonner par toute leur vie.
Merci mon père. Eh bien, nouvelle pause musicale dans cette émission, et toujours avec Gabriel Fauré, mais cette fois-ci avec un extrait de son magnifique requiem, le Sanctus.
Dans la Haute Ariège, 92.7. Vivante Église, Éric Dupri.
Voilà, après le Sanctus du Requiem de Forêt, nous retrouvons le père Bertrand de Saint-Onac pour la dernière partie de ce Vivante Église à Saint-Girons. Et je me posais la question, mon père, des événements qui rythment la vie religieuse et paroissiale dans le Couserans. Est-ce qu'il y en a de bien spécifiques, comme des pèlerinages ou des dévotions peut-être, qui sont très attachés à des lieux de ce territoire?
Alors oui, il y a plusieurs choses. D'abord, l'événement majeur, c'est quand même la messe du dimanche. Enfin, pour nous, c'est quand même la messe du dimanche. Voilà. On a quand même 10 messes qui sont
célébrées. C'est bien de le rappeler.
Ouais, ouais. Il y a 10 messes célébrées chaque week-end sur le Couserans. On en est très fiers. Et messes auxquelles participent ceux qui sont là, et puis aussi ceux qui nous rejoignent pour l'occasion. Donc là, on est contents de cela. Après, il y a des temps forts, il y a des pèlerinages un peu partout, surtout le doyenné. Le 8 septembre, à Notre-Dame du Pouèche. Voilà, des pèlerinages en montagne. Bientôt, on aura le pèlerinage à Notre-Dame du Marsan, ici à Saint-Lizier. Un pèlerinage très ancien.
Notre-Dame du Marsan.
Voilà, c'est très ancien. Enfin voilà, donc il y a plein de choses. On en parlera d'un autre. Je laisserai la parole à ma voisine sur un pèlerinage en montagne aussi, très important. Je voudrais dire un mot sur on a aussi une kermesse. Voilà.
À la Pentecôte.
Une vraie kermesse paroissiale. Donc là aussi, le lundi de Pentecôte, le matin, le pèlerinage au Marsan.
Ça, c'est très bientôt.
L'après-midi, le repas au centre paroissial, et puis une après-midi festive autour de jeux comme dans les vraies kermesses, et même une tombola avec un thermomix à gagner. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas,
en plus,
on vous accueille avec plaisir. Voilà, donc il y a plein de choses. Oui, on essaie de vivre plein de choses.
Alors ce pèlerinage que vous venez d'évoquer là dans la montagne, à la chapelle de l'Isard, ce lieu, il se trouve où exactement? Ça ressemble à quoi? C'est quel cadre?
C'est un pèlerinage en montagne, c'est dans la vallée de Saint-Ain. au fond de la vallée de Saint-Ain. On laisse les voitures à Fréchendèche et on monte à pied pendant une heure et demie, une heure trois quarts, pour arriver à la chapelle de l'Isard.
Et en plus, on fait l'exercice, vous voyez.
C'est le 5 août. Il y a à peu près dans les 300 personnes qui montent, de tous âges, de toutes générations. Et c'est un pèlerinage qui est dédié au pâturage et aux bergers. Il y a à la fin du pèlerinage une bénédiction spéciale pour les bergers.
Il est très ancien, ce pèlerinage. Il est très ancien.
Ah oui, il est très ancien.
C'est une tradition qui remonte à très loin.
Oui. Et cette chapelle a été plusieurs fois endommagée et chaque fois elle a été reconstruite. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière, puisqu'on a refait le toit et diverses choses.
Et ça, c'est une tradition qui reste encore très suivie, si je comprends bien. On parlait de la baisse de la pratique, mais ça, en tout cas...
Oui, on attend vraiment ce pèlerinage. Les gens de la vallée, ils sont très attachés.
Avec l'idée, donc, c'est la montagne aussi. Pour nous, c'est un secteur très prégnant dans le Couserans. On a le projet aussi cette année, c'est original, donc chaque jeudi, il y a une permanence qui est organisée à la chapelle. Et on va y organiser aussi une messe, là, tout au long de l'été. Donc ça permettra aussi, d'abord au prêtre d'aller faire un peu d'exercice, ce qui ne nous fera pas de mal, pour y monter. Et ensuite, aux fidèles, à tous ceux qui viendront, aux montagnards, voilà, d'avoir aussi un temps spirituel marqué tout au long de l'été.
Alors, il y a des événements comme ça ponctuels, mais il y a quelque chose de particulier à la région, c'est qu'il y a une espèce de saisonnalité tout de même de la pratique, puisque à partir des beaux jours, à partir de maintenant, et encore plus pendant l'été, presque jusqu'à la Toussaint, là, il y a des gens qui viennent en vacances, en Couserans, ou des gens qui ont des maisons secondaires dans le Couserans. Comment vous vous y confrontez à ça? Parce que s'il y a plus de pratique, il faut peut-être aussi plus que vous soyez plus actif.
Alors, ouais, moi j'ai fait ce constat quand je suis arrivé, de trois populations. Il y a ceux qui restent tout le temps, dont je fais partie, ils sont là toute l'année. Et puis il y a ceux qui viennent en gros de Pâques à la Toussaint. Et puis il y a ceux qui viennent l'été. Voilà. Parce que il y a le Couserans, c'est un territoire identitaire très fort, avec aussi une très grande diaspora dans la région toulousaine, un peu plus loin, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis en particulier. Voilà, il y a des liens avec. Et donc les gens reviennent sur la terre ancestrale, sur le lieu de leurs racines. Donc pour nos pratiques. Non, on change pas entre l'hiver. Enfin, l'été, on a les fêtes de village, par exemple. Quand même, c'est vrai, on a plus d'événements dans les fêtes de village. Mais on sent que la pratique est. On a des renforts. On apprécie aussi. C'est aussi une réalité du Couserans. Les gens qui habitent à Toulouse et qui viennent le week-end pour nous renforcer. Donc ça, c'est vrai que pour nos messes, ça fait du bien, que ce soit en hiver ou en été. Voilà, donc on apprécie cette pratique renouvelée à partir de maintenant.
Alors, il y a quelque chose aussi très particulier, c'est que vous avez des Américains qui viennent, et en fait, ce sont les descendants, si j'ai bien compris, des fameux montreurs d'ours, d'Hercé, là, de ce oui. coin au bord du Garbette.
Alors, il y a deux choses, il y a les montreurs d'ours, et puis il y avait des colporteurs aussi, voilà. Si un jour vous venez visiter le Couserans...
Qui ont fait souche aux États-Unis, les descendants reviennent ici, ça, ont gardé des attaches.
Certains ont travaillé d'ailleurs aux États-Unis dans les années 50, dans la restauration, ils sont revenus. Donc on a pas mal de paroissiens qui ont des racines.
Il y a une rue à New York, je crois, plusieurs restaurants qui appartiennent à des descendants.
Il en reste un, voilà, la famille de Namiel, là, il reste un restaurant à New York.
On arrive à la fin de cette émission. Pour finir, mon père, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée d'une fréquence radioprésence, d'une radio chrétienne à Saint-Girons et dans le Couserans?
Alors d'abord, je me réjouis de cette venue, de cette émission aujourd'hui, qui fait connaître le Couserans. La radio chrétienne, ben, c'est pour nous... un soutien, ça permettra, comme on l'a disait ce matin, aux paroissiens d'écouter, peut-être à d'autres aussi, de découvrir à travers une radio qui a aussi une mention un peu généraliste, de découvrir aussi la foi d'une manière différente. Voilà, donc j'espère une belle collaboration, et puis on verra pour les projets, j'en sais rien, mais on verra ce qu'on peut développer.
Je suis sûr qu'il y en aura, j'en doute pas. Voilà. Merci beaucoup Bertrand de Saint-Tenac, merci mon père, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, merci au père Jean Fauroux, à tous les laïcs qui se sont exprimés, qui ont accepté de s'exprimer au micro. C'est la fin de ce Vivant Église spéciale à Saint-Girons. Maintenant, la suite de nos programmes sur Radio Présence.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.